gré des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Victor Hull,
Baptiste Antoine,
Maïs Acostache.
Bonjour, bonsoir. Ambiance festive aujourd'hui dans VMDN, la magie cubaine du Buena Vista Social Club, la folie douce et poétique de la compagnie Philippe Gentil et le burlesque animé du studio Hardman rythmeront notre café gourmand. Mais pour commencer, un génie de la mode est avec nous. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours au Grand Palais où il présente une grande exposition qui lui est consacrée et qui revisite sa carrière, ses inspirations et ses créations dans une mise en scène grandiose et éblouissante. Après Montréal où elle est née, une série d'étapes américaines et européennes, la rétrospective Jean-Paul Gaultier s'installe donc à Paris jusqu'au 3 août et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean-Paul Gaultier.
Bonjour.
La planète mode de Jean-Paul Gaultier, de la rue aux étoiles, c'est le titre complet de l'exposition. Qu'est-ce qui vous fascine le plus, la rue ou les étoiles?
Oh, je crois les deux. Je crois que j'apprécie la rue parce que j'adore les étoiles. Je crois que c'est un petit peu ça. Je crois que la réalité, je l'assume et je la vis. Et le rêve, eh ben c'est les étoiles, et ça, j'en ai besoin pour justement bien vivre ma vie.
C'est la rue qui doit conduire aux étoiles, ou ce sont les étoiles qui doivent éclairer la rue?
Je ne sais pas quel est le rôle de chacun. Je crois que moi, j'aime bien décaler les choses. Alors peut-être que je décalerai un petit peu les fonctions. J'aime bien quand les fonctions, justement, sont prises un peu d'une autre façon, et les codes aussi. Donc je dirais que je ferai un mélange des deux, quoi.
Mais pour vous, Jean-Paul Gaultier, la mode doit être le reflet de la société, ou est-ce qu'elle doit être à l'avant-garde de la société? Est-ce qu'elle doit anticiper la vie des gens?
Ben, je crois qu'elle est le reflet, mais un reflet peut-être qui est au départ l'avant-garde. Je pense que c'est dans l'avant-garde, en effet, que se prépare et qu'il y a les prémices de ce qui va être par la suite, quoi. C'est bien puiser dans l'avant-garde la créativité, et comme ça, ce qu'on va présenter ne tombe pas à côté, quoi. Je crois qu'il faut toujours qu'il y ait une envie et qu'il y ait un rapport avec la société, avec les mouvements sociaux, avec ce qui se passe, avec les mouvements culturels. Tout ça, ça fait partie de notre travail. C'est pour ça que quand on dit que mon métier, c'est un métier, c'est de l'art, je dirais non, c'est de l'artisanat d'abord, parce qu'il y a quand même une fonction aussi des choses faites à la main. Mais en plus de ça, ça doit faire surtout pour plaire. C'est un service. Habiller les gens, c'est un service.
Et comment trouver le bon dosage?
Ah ben ça, c'est là où l'art arrive. L'art, je veux dire, mais là c'est une image. C'est là où l'habileté, on va dire, où l'habileté de l'artisanat arrive. Et de aussi peut-être comment on arrive à faire fonctionner tout ça. C'est bien parce que je pense que je suis un peu dyslexique et du coup ça m'a permis de trouver des idées et de trouver des solutions peut-être là où il fallait en trouver. Et je dirais que le fait de commencer sans argent, ça c'est bien. Parce que ça permet justement de trouver des solutions avec peu de moyens.
Vous avez reconnu, Jean-Paul Gaultier, la musique de Falbala, le film de Jacques Becker. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu ce film qui vous donnait envie de faire ce que vous faites aujourd'hui?
Ben, j'avais 12 ans, je regardais à la télé tout, ma grand-mère me laissait voir tout parce que j'étais plutôt chez ma grand-mère que chez mes parents. Et j'ai vu ce film, et là, si vous voulez, alors que je pensais jusqu'alors, j'avais vu des danseuses des Folies Bergères toujours à la télé, et je m'étais dit, tiens, ben, j'aimerais bien faire un spectacle avec, comme les Folies Bergères. Et là, je me suis dit, en voyant le film, je me suis dit, non, je veux faire le métier que fait ce monsieur-là. C'était donc le créateur qui était joué par Romain Rouleau, je crois.
Ouais.
Enfin, je sais que c'est Rouleau, son nom, mais je ne sais plus vraiment le prénom. Et Micheline Prel. Et quand j'ai vu, si vous voulez, la scène, enfin, les scènes, bon, d'abord, il tombe amoureux d'elle, il est couturier, ça dépeint très bien, merveilleusement bien, le milieu de la couture et une maison de haute couture. Il y a tous les gens que j'ai appris à connaître. Après, quand j'ai travaillé chez Jean Patou, toutes les personnes étaient là, la directrice de la maison de couture, la muse inspiratrice. Donc là, en l'occurrence, les anciens mannequins. Et puis, la nouvelle Micheline Prel. Et en voyant Micheline Prel, aussi belle, aussi inspirante. C'est comme si, en fin de compte, ça avait été ça, ma leçon, mon école de mode. Ça avait été genre, voilà, il y a le couturier, il y a tous ces gens-là alentour, lui, il fait des robes, il fait un défilé, c'est très important le défilé, et puis il y a la muse inspiratrice, celle qui va l'aider à trouver les idées en étant elle-même, quoi. Et c'est après ce que j'ai toujours recherché, mais inconsciemment, tout cela était très inconscient, je crois que ça m'a servi après pour avoir mes réactions et à des beautés différente.
Mais alors, vous parliez d'école de la mode à l'instant, Jean-Paul Gaultier, et pourtant vous vous a surnommé très vite, très très tôt, l'enfant terrible
mode. J'ai justement pas fait d'école, parce que je déteste. Déjà,
Cardin, c'était pas une école ?
Oui, mais ça c'est une école du travail. Vous voyez, du travail et de la créativité et comment ça se passe dans le réel, quoi. Parce que c'était la vraie vie, quoi. Alors que l'école vous enseigne parfois. Je pense qu'il y a des bonnes écoles de mode. Hein, le propos n'est pas là. Je viens pas du tout critiquer les écoles. Bien au contraire. Je crois que c'est tout à fait nécessaire. Mais moi j'ai eu en quelque sorte la chance, peut-être c'est qui m'a aidé à trouver mon style, de ne pas faire d'école, de dessiner comme j'étais un fils unique et tout me laissait faire ce que je voulais, d'habiller mon nounours et de rêver. Donc du coup, je me suis intéressé donc après ce film plus à la mode et je me suis dit c'est ça, c'est la mode qui m'intéresse. Donc mon école, ça a été de regarder dans les journaux, dans les magazines, ce qu'on disait sur les couturiers. Il y avait une émission qui passait, qui était faite par Jean-Christophe Averty à l'époque, qui montrait une fois tous les 6 mois à chaque collection haute couture un spécial haute couture qui durait 15 minutes où on voyait Courrèges, Cardin, Saint-Laurent et tout, et ça me faisait rêver. Je trouvais ça formidable. Ça, c'était des images qui étaient en moi et je me disais bah voilà, c'est ça. Et je faisais ma propre réflexion. Alors au départ, je prenais tout comme si c'était la Bible. Et
vous vouliez ressembler à ces...
Alors, je prenais ça et je me disais, ah bon, on fait comme ça, bon, c'est comme ça, parce qu'il y avait en même temps les critiques. Je lisais aussi les critiques des journaux.
Ah oui.
Quand arrivaient les collections de haute couture, il y avait cette collection très parisienne. Ah bon, donc c'est bien qu'elle soit une parisienne. Donc, ça me confortait dans des choses que je voyais et après, ça m'aidait à les comprendre. Et puis après, j'ai pu réfléchir à le faire. Je l'ai fait, on va dire, peut-être naturellement.
Au début de l'année 1980, Jean-Paul Gaultier, une annonce dans Libé. Créateur non conforme, cherche mannequins atypiques, gueule cassée, ne pas s'abstenir. C'était
évidemment,
un pied de nez au milieu,
s'abstenir.
Ou c'était simplement une envie de faire différent?
Mais ça, c'était constant, toujours faire différent. Différent, pourquoi? Parce que, d'une part, bon, quand j'ai commencé, absolument pas d'argent, mais vraiment pas du tout d'argent. Mais ce qui est assez drôle, en même temps, comme coïncidence, c'est que ma première collection a eu lieu au Palais de la Découverte, dans le Planétarium. Ça, c'est un hasard total. C'était pas cher, la salle.
Donc, on a pu... du Grand Palais, c'est le même bâtiment, d'ailleurs.
C'est le même bâtiment, mais alors c'est beaucoup plus petit et c'est pas cher du tout. Et je pense qu'encore que, d'abord, il y a très peu de personnes qui font des défilés là. Et ça a toujours été, si vous voulez, comme moi, peut-être, j'étais un petit peu différent du fait que je jouais pas au foot, j'étais un petit peu plus fragile, j'étais un peu plus, on va dire, fille manquée. Certains disaient que je détestais qu'on me dise ça d'ailleurs, mais enfin bon, il y en a qui disaient ça. Alors peut-être que j'ai regardé aussi les différences. Et dans ma famille, mes parents qui étaient d'un milieu très modeste, et ma grand-mère aussi, eh bien, ils étaient quand même très ouverts, et très ouverts sur les autres, et en fin de compte, très ouverts sur toutes les sortes de personnalités, et les gens qui étaient différents que d'autres pays, d'autres ethnies. Donc étant rejeté, je me suis rendu compte que par mes croquis, je pouvais peut-être être accepté, mais du coup j'ai aimé toujours ceux qui étaient aussi un peu faisant partie des minorités et étant différents tout au moins, et qui pouvaient quelquefois être rejetés par les autres.
Mais alors du coup, vous avez fait évoluer, Jean-Paul Gaultier, les critères de la beauté. Forcément, en tout cas le regard que l'on porte.
Ben oui, parce que
gens.
Si vous voulez, je trouvais qu'il y avait des injustices. Je me souviens notamment quand j'étais chez Patou, il y avait à l'époque, il y avait le directeur artistique et il y avait une fille noire qui était arrivée et qui s'était décolorée en blonde. Et moi, je l'aimais parce que non seulement, bon, elle était noire, donc ça, je me posais même pas la question de savoir si ça pouvait poser un problème, parce que pour moi, il y en avait aucun problème qu'une fille noire fasse un défilé. Au contraire, elle était magnifique et elle portait merveilleusement bien les couleurs. Mais en plus, elle avait les cheveux décolorés. Et quand le directeur artistique l'a vue, dit, ah non, mais en plus, comment les Américains ne vont pas aimer et tout, parce qu'ils sont, enfin, il a pas dit le terme de raciste, mais enfin, c'était ça, et ça pourrait faire du tort pour la vente. On n'avait aucune cliente chez Jean Patou. C'est seulement les parfums qui se vendaient. Alors, je veux dire, où était le problème? Qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Donc, ce genre de réaction, d'attitude comme ça m'a choqué, et j'ai voulu, alors après, me dire à tout prix, ben non. Voilà. Et puis, je n'aimais pas non plus comment certains mannequins qui se voulaient très professionnels marchaient, leur façon de toucher la fourrure pour montrer à quel point c'était sensuel. Ces trucs que je trouvais complètement dépassés et pas bien du tout. Je préférais des filles avec de l'allure et une différence, notamment Farida Khelfa, qui était absolument exceptionnellement différente et belle, avec une attitude assez géniale. Et Edwige, la reine des punks.
Mais alors pour vous, Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce que la beauté ?
Ben, la beauté est multiple. Il n'y a pas une forme de beauté. Pour moi, il y en a plein. Je dirais plutôt que ça. La beauté est multiple. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très subjectif, parce que ça dépend comment on regarde. Mettons la beauté, je l'ai trouvée aussi dans une boîte de conserve, parce que ça me faisait penser à un bracelet africain. Je me souviens, chez Patou, notamment, on disait, il y avait les vendeuses qui disaient, oh, mais ça, c'est beige et or, donc c'est chic et c'est beau. Je regrette, ça peut être atroce. Moi, j'aimais le noir. Mais à l'époque, c'était très mal vu, quoi. Ouais. Habiller les enfants très jeunes en noir, c'était seulement le rapport avec la mort. Vous voyez, toutes ces histoires, toutes ces superstitions, ces choses que je comprends et respecte, mais en faire ça comme des codes pour tout le monde les mêmes, non.
et habiller les garçons comme les filles. Habiller les garçons comme les filles.
Ah, je n'ai jamais habillé les garçons comme les filles. Loin de moi cette idée. J'ai voulu faire, quand j'ai fait mon premier défilé homme, j'ai voulu faire l'homme-objet. Pourquoi ? Parce que, à force d'entendre dire la femme-objet...
Rééquilibrer.
Voilà, je voulais donner l'équilibre entre les deux. Et en plus, les femmes, je les ai montrées en costume d'homme, ça Saint-Laurent l'avait déjà fait avant moi, et Marlène Dietrich s'était déjà habillée comme ça. Mais moi, je l'ai mélangée avec un... corset, justement ce mélange, au sein de la même personne, il y avait le corset avec les seins pointus qui faisait une espèce de sensualité, sexualité un peu agressive, comme ça féminine, avec comment le costume d'homme. Donc l'alliance des deux. Pour l'homme, j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu montrer que l'homme aussi pouvait être bête et se taire. Puisque c'était soi-disant, quand une fille était belle, il fallait qu'elle se taise. Elle était idiote, une ravissante idiote. C'est des expressions que j'ai entendues et qui me choquaient. Le costume d'homme, jusque-là, c'était toujours avec la poche à l'intérieur. Cette poche-là, la poche portefeuille. Pourquoi ? Parce que l'homme est puissant, et il a de l'argent et tout, et voilà, et c'est lui qui va payer. Je trouvais ça, oui, il y a des femmes aussi qui peuvent payer. Et elles ont bien raison, et en ce moment, c'est pas les cougars qui me diront le contraire. Bon, et alors, mais c'est très bien, c'est pour cette espèce d'égalité. Donc j'ai voulu montrer un homme qui était aussi séduisant, comme par exemple, c'était pas dit, mais pourtant c'était le cas, regardez, Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, la pauvre, je ne sais plus le nom, comment s'appelle l'héroïne, qui se meurt devant sa beauté sexy, c'est certain, mais jamais ce n'était dit. En plus de ça, il y a eu toute l'époque quand même des rockstars qui a changé un peu la vision de la beauté et de l'esthétisme masculin. Il y a eu tout ce côté androgyne, Mick Jagger, David Bowie, tout
mais
ça m'a influencé.
Vous avez contribué à construire cette image-là aussi
Par la suite, mais eux ont commencé avant moi, hein. Parce que d'abord je suis un petit peu plus jeune qu'eux, j'ai quand même à peu près 10 ans de moins, enfin disons j'ai pu m'exprimer un peu plus tard quand même, vous voyez, mais eux, comment, il y a eu l'unisex, il y a eu les hippies, il y a eu tout ça qui ont fait que quand même la vision même de la femme sur l'homme a changé. C'est-à-dire que les femmes n'ont plus peur de dire bah oui, bah j'aimerais bien aussi un homme qui soit plus sensible, qui fasse plus attention à sa coupe de cheveux, celui-là il est ringard et tout. Et toutes ces notions-là qui sont arrivées, donc j'ai montré un homme qui pouvait être sexy, qui n'avait pas peur d'être sexy, tout en étant quand même très masculin.
La marinière, Jean-Paul Gaultier, marinière et Jean-Paul Gaultier, ce sont toujours deux mots aujourd'hui qu'on associe. D'où vous vient comme ça votre passion, votre intérêt pour la marinière qui accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition? C'est les couleurs qui prennent le visiteur par la main.
Parce que ça a mariné très longtemps dans ma tête, c'est pour ça. Non, c'est-à-dire que c'est surtout, j'en ai porté étant petit. Je me suis rendu compte que quelquefois quand je faisais des croquis, de faire une petite rayure en dessous, mettons une veste ou un trench, ça devenait assez attrayant. Et puis parce que c'est graphique. Et puis parce que c'est aussi un code, enfin des codes, les codes de justement la marine. Donc mettre ça sous une veste de smoking, pas mal. Vous voyez, j'aime bien changer comme ça. Vous voyez, donner une autre, mélanger les gens, mettons sous le perfecto, c'est parfait.
C'est un amusement de créer, Jean-Paul Gaultier.
Ah oui, pour moi c'est une joie. J'ai vraiment de la chance parce que, si vous voulez, je rêvais de faire donc ce métier. Et en fin de compte, je continue mon rêve d'enfant, quoi. C'est-à-dire que je continue à jouer. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement personnel. Mais voilà, mais j'adore ça et tout, donc ça permet de s'y donner à fond.
Down there.
Parmi vos vêtements cultes, Jean-Paul Gaultier, il y a évidemment ce bustier avec les cinq coniques que Madonna portait dans son Blonde Ambition Tour.
Et que mon ours portait avant elle.
Oui, voilà. Donc c'est vraiment l'ours qui a servi.
Ben oui, parce que je voulais avoir une poupée. Mais mes parents ne voulaient pas parce que c'est pour les filles, les poupées. Alors du coup, j'ai pris mon ours et je l'ai travesti. Alors je lui ai mis deux seins coniques comme ça, j'ai découpé un bout de carton, j'ai mis des épingles. Et puis voilà, c'est lui qui a fait office, mon premier cobaye.
Oui. C'est un fétiche, votre ours ?
Il est là, c'est la vedette, de l'exposition.
Ouais. Le fétichisme précisément, l'érotisme, oui. Vous le couplez souvent. Oui. Et c'est vrai que Madonna, c'est un peu une icône en la matière. On parlait aussi d'iconographie religieuse. Est-ce que vous avez un rapport érotique avec Dieu ?
Avec Dieu, je ne sais pas. En tous les cas, avec les vêtements, c'est sûr.
Est-ce qu'il faut choquer pour exister, Jean-Paul Gaultier ?
Écoutez, d'après ce que j'avais lu, peut-être. Mais je crois que tout dépend de quelle façon et sur quel sujet on choque. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire le fait de... Moi j'ai essayé toujours, quand je savais que certains terrains étaient un petit peu, dangereux ou sulfureux et tout, mais j'ai toujours essayé de les faire, comme par exemple la féminité chez l'homme. Bon, je vous ai dit comment j'avais essayé en mélangeant justement virilité et une chose par contre inattendue, qui en fin de compte n'a rien de spécifiquement féminin, vous voyez. Je n'ai pas mis quand même les seins coniques sur les hommes, vous voyez, je oui. les ai pas habillés en travesti justement. Mais il y a des sujets, par exemple, oui, il y a d'autres sujets qui peuvent être intéressants et qui m'amusent toujours. Par exemple, comme je l'ai, vous ai déjà dit, il y avait la poche portefeuille pour les hommes et pas pour les femmes. Donc j'en ai mis pour les femmes. J'ai changé même le côté de boutonnage pour les femmes. Et l'inverse pour les hommes, mais il y avait d'autres choses que je voulais faire aussi, notamment par rapport aux hommes, notamment avec le port du tchador. J'avais pensé à un moment, je me dis, pour un défilé homme, je pourrais leur mettre, faire un défilé avec eux le tchador, puisqu'ils le mettent aux femmes, et ben qu'ils le portent aussi eux-mêmes. Mais je n'ai pas été jusqu'à le faire, parce que j'ai pensé que c'était peut-être pas un bon moment. Ça, c'est il y a 10 ans. Hein. Et déjà, il y a 10 ans, encore moins, je crois. C'est peut-être pas la peine de jouer trop avec ça. Ben, c'est ça, il y a aussi des moments, il faut savoir s'adapter à quel moment et comment le dire et comment ça peut être pris. Là, c'est peut-être, c'est trop risqué, quoi. C'est pas la peine. Là, ça serait une provocation, je trouve, très malvenue, quoi. Donc, c'est pas la peine de, il faut au contraire que les choses s'apaisent après, peut-être ça pourrait être fait. S'il y a toujours ce port-là.
Ça vous fait quoi d'entrer au musée, Jean-Paul Gaultier?
Ben, je m'en rends pas compte. Non, mais très sincèrement, j'arrive pas à le croire, quoi. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que je suis dans l'action. C'est-à-dire que ça, c'est encore un autre challenge. Et si vous voulez, le fait d'être au musée, ce n'est pas un aboutissement, vous voyez. C'est simplement le fait, une nouvelle aventure où il faut exprimer autre chose et le montrer d'une autre façon. Et du coup, ça me donne des idées. Donc, en fin de compte, je continue à m'amuser. Donc, c'est un amusement, un grand amusement, un bel amusement que je n'en reviens pas. Si j'y pense 3 secondes comme ça, mais comment faire pour qu'il soit le mieux possible et que les gens ne s'ennuient pas et aient du plaisir à le voir?
Eh bien, on s'ennuie pas. La prochaine étape, c'est le Panthéon?
Oh, non, alors là, au secours. Non, moi, tout ce qui est généralement institutionnel, non. Merci. Pas trop pour moi.
Merci beaucoup, Jean-Paul Gaultier. La planète mode de Jean-Paul Gaultier de la rue aux Étoiles, c'est au Grand Palais jusqu'au 3 août. Une pause, le flash, et on se retrouve pour le Café Gourmand. Vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
Avec cette semaine, Maïsa Costache, Sébastien Jeder, Isabelle Chenu et Sarah Tisser. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Sarah, vous nous donnez rendez-vous dans un instant avec une formation musicale de légende.
Oui, on va parler de la tournée d'adieu de Buena Vista Social Club. Les Cubains qui ont sorti leur premier album il y a près de 20 ans et dont un album d'enregistrement inédit vient par ailleurs de sortir.
Un village de légende également au menu de ce café gourmand Saint-Tropez. Alors, il y a la plage, Isabelle, il y a les boutiques, les hôtels de luxe, le camping. Il y a évidemment la gendarmerie, mais il y a aussi un musée.
Et le musée de l'Annonciade, le plus petit des musées de France et le plus beau, qui vous parlera du golfe de Saint-Tropez, nous fera rêver.
Voilà, vous Maïsa, c'est un monde de poésie et de rire que vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir.
Alors, au Grand Parquet à Paris jusqu'au 5 avril, Zygmunt Follies, présenté par la compagnie Philippe Gentil.
Mais pour commencer, Sébastien, plongez dans un autre monde magique, celui des dessins animés.
«
On leur doit les meilleurs films d'animation de ces dernières années, récompensés par plusieurs Oscars. Les studios Aardman s'exposent en ce moment à Paris au musée Art Ludique. Alors Aardman, Sébastien, c'est Wallace et Gromit, Chicken Run ou encore Shaun le Mouton. Série pour enfants qui vient d'ailleurs de passer au grand écran cette semaine.
Oui, des personnages à l'humour british qui ont conquis le monde entier. Ce sont des figurines en pâte à modeler qui évoluent dans des décors bourrés de détails. Tout est fait main et les films sont tournés image par image. Vous imaginez la prouesse. Alors vous les avez cités, ces personnages. Il y a Wallace, l'inventeur saugrenu et célibataire, amateur de cheddar. Son chien Gromit et Shaun, le petit mouton espiègle, accompagné d'un fermier pas très doué, j'en passe, et des meilleurs.
Et tous ces personnages sont nés dans les studios de Bristol, dans le sud de l'Angleterre.
Des studios qui ont été fondés en 1972 par deux géniaux ados attardés, Peter Lord et David Sproxton, qui ont été rejoints ensuite par Nick Park. Et je vous propose de suivre pendant 4 petites minutes Jean-Jacques Launier, le cofondateur du musée Art Ludique. Il va nous emmener dans quelques-unes des salles de cette exposition Aardman qui fait 1200 mètres carrés. Oui. On va aller des dessins aux figurines en pâte à modeler, on va voir les décors et on va terminer sur un plateau de tournage.
C'est un des propos du musée, c'est de montrer à un large public que derrière les productions qu'ils aiment, il y a des artistes incroyables et que c'est donc pas par hasard que ce sont des chefs-d'œuvre. Donc on voit en effet les crayonnés de Shaun, les crayonnés de Wallace et Gromit, les tout premiers dessins de Nick Park quand il a imaginé Wallace et Gromit. À l'époque, Wallace s'appelle Jerry, il a des moustaches, il est postier, Gromit a des dents et il se comporte comme un chien. On a plein de crayonnés de Shaun le mouton, on a plein de crayonnés des personnages du film Le Lapin-Garou, et c'est très intéressant. Bien sûr, on va les retrouver après en sculpture, puisque les salles suivantes reviendront sur ce process artistique et ce sera le dessin prend forme avec la sculpture prend forme avec la lumière. Et quand on parle de l'idée qui prend forme avec le dessin et le dessin prend forme avec la sculpture, on pourrait aussi parler de Michel-Ange, donc sans arrogance évidemment, mais c'est avant tout de l'art.
Service, la nuit a été rude, longue et agitée, on n'a pas sommé. J'ai l'écran, heureusement que tu vas m'apporter un solide petit déjeuner. Vas-y, j'ai une fin de loup.
Là, on est devant une pièce assez originale. C'est comme un carnet de croquis en pâte à modeler. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit ?
Oui, c'est vrai que j'étais dans le bureau d'un des artistes à Bristol et on discutait et on voulait tourner un film où il explique ce qu'est la stop motion. Il explique qu'effectivement, pour un public large, c'est image après image, on bouge la pâte à modeler, on fait une image, on la bouge. Et je regarde dans son bureau et je vois une espèce de truc en bois incroyable avec plein de personnages de pâte à modeler dessinés. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Il me dit, moi, j'aime pas trop faire des croquis dans un carnet, je préfère les sculpter directement, et je les colle dans des petites pièces en bois comme ça, et du coup on a une espèce d'une œuvre d'art absolue.
Alors il y a des personnages qui grimacent, il y a un personnage, on dirait une femme enceinte, il y en a d'autres qui sourient, il y en a d'autres qui sont pensifs, il y a toute une galerie d'émotions en pâte à modeler en fait.
Absolument, et c'est vrai qu'à une époque où l'art contemporain parfois nous perd, ici là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a une œuvre d'art contemporain figurative, narrative, qu'on a rarement vu dans un musée.
Que de légumes dans ce grand potager paradisiaque.
Wallace et Gromit sont appelés à la rescousse pour enquêter sur une mystérieuse bête qui ravage les potagers.
Alors la spécificité d'Aardman, c'est qu'une fois qu'ils ont créé les personnages, eh bien il faut les animer dans des décors, et c'est dans ces décors-là que les films vont être tournés à une certaine échelle. Et là, on se trouve donc dans un des décors du Lapin-Garou, devant un potager miniature avec plein de détails, des choux, des salades, des carottes, des arbres.
Voilà, donc c'est incroyable. Et c'est vrai que quand on regarde ces salades, bien sûr, il n'y en a pas une pareille. Ils en ont fait des centaines. Pour faire ce décor, c'est plus de 3 mois de travail. Et quand on les regarde, ces salades, on a presque envie de les mettre au frigo parce qu'on voit qu'elles sont en train de se flétrir.
Vous aussi, vous serez dingue du monde plein d'inventions de Wallace et Gromit.
C'est un vrai décor, une vraie mise en scène, et donc on peut se projeter, parce que quand on regarde et quand on s'approche de la vitrine, on perd finalement la notion de perspective et de dimension.
Du beau travail, mon gars.
Et on le verra plus tard dans un décor. On a positionné dans notre musée un décor dans les conditions réelles, avec une caméra, avec les vrais projecteurs, avec les réflecteurs, etc. Et donc on se rend compte de la folie créative qu'il faut pour donner finalement la vie à des personnages de 15 cm de haut dans un décor ultra réaliste. Et là, du coup, ils nous font découvrir l'envers du décor.
Et bon, on va peut-être aller voir ce décor alors avec les caméras qui sont devant, puisque vous les avez fait venir pour qu'on ait l'impression de participer au tournage de Shaun le Mouton.
On a vu plein de décors dans le musée qui sont un peu présentés dans des écrans avec de très belles lumières qui mettent en scène les personnages. Mais on voulait aussi montrer comment c'est en vrai. Donc on est allé souvent les voir tourner. On avait la chance d'aller les voir quand ils étaient en train de tourner Shaun le mouton. Et on a vu ce décor incroyable quand ils sont sous les ponts, ces pauvres moutons, une fois de plus, perdus, l'animal perdu dans la ville. Et on leur a dit, ce qui serait génial, c'est que vous montriez au public comment vous travaillez. Donc c'est une de leurs vraies caméras qui est cadrée sur Shaun dans ce décor gigantesque avec tous leurs vrais projecteurs, les réflecteurs, donc qui renvoient de la lumière. Et en plus, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est que la caméra filme vraiment. Donc on a un écran à côté et on voit en grand écran Shaun le mouton avec sa lumière qui change de lumière de jour à lumière de nuit. Et on voit ce rapport de proportion puisque Shaun crève l'écran, il est en grand format dans l'écran. Et quand on se retourne, quand on regarde le décor, on se dit, ah mais il fait en fait 15 cm. Ça, c'est la magie du cinéma, c'est la magie d'Hartmann, et on avait envie de la partager avec un grand public.
Jean-Jacques Launier, le cofondateur du musée Art Ludique, oui, c'est la poésie aussi.
Ah oui.
Il était notre guide dans cette exposition dont le titre résume parfaitement le travail des studios Hartmann. Le titre, c'est l'art qui prend forme.
Et c'est donc à découvrir jusqu'au 30 août au musée Art Ludique à Paris. Merci Sébastien. Maïsa, vous allez donc nous parler d'un spectacle qui a commencé hier au Grand Parquet, un théâtre parisien, jusqu'au 5 avril. Il s'intitule Zygmunt Follies. Il est présenté par la compagnie Philippe Gentil.
Et alors, Philippe Gentil, le magicien des marionnettes, réactualise un spectacle créé il y a 20 ans. Et les péripéties sont authentiques, cocasses et n'ont pas pris une ride.
Ma maman, elle ne me croit jamais lorsque je lui dis que les objets ont une âme. Et pourtant, ce matin, j'ai rattrapé mes chaussures sur le palier. Et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur ? Hein ? Qu'est-ce que je trouve ?
Mes deux pieds.
Mais vraiment, les objets ont une âme. Et attendez, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît ? Ah non, 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 mais ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Non, 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 ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Ne me rongez pas non plus. Non, non, ne me touchez pas, ne me touchez pas, non.
Un homme sans tête, dans un imperméable, tient une boîte en carton et sa tête est dedans. Cet homme est Éric de Saria, le conteur, comédien et manipulateur de marionnettes. Le ton est donné, le public rit de bon cœur. Et dans le spectacle, il y a un deuxième comédien, Philippe Richard, qui donne la réplique, mais qu'on ne voit pas. En fait, c'est une partition à quatre mains, Éric de Saria.
L'histoire, c'est celle d'un personnage qui se divise en plusieurs personnalités. Mais c'est toujours le même personnage. Donc après, on passe à un niveau de la marionnette. La marionnette à gants, c'est donc au niveau de la main. C'est le personnage fait à peu près 20 à 25 cm de haut. Le rythme est endiablé. Et effectivement, avec mon partenaire, il m'aide, il me passe les accessoires. Il y a une circulation d'énergie qui fait que, effectivement, visuellement, on a l'impression de... Et c'est vrai de voir une multitude de choses.
C'est alors qu'apparut un inspecteur de police, habilement déguisé
en ciseaux.
Police, ne bougez pas les mains en l'air.
Je veux dire, ça peut être facile de lever les mains sans bouger.
Tenez-vous, vous êtes à l'état d'arrestation, vos papiers.
Mes papiers.
Vos papiers.
Mes papiers.
Vos papiers.
Mes papiers.
Vos papiers. Mes papiers.
Vos papiers.
Mes papiers. Oh, écoutez, ça suffit. Vos papiers, enfin, on va pas s'éterniser.
Tiens, le flic, je vais prendre mes papiers. Tiens, prends cette photo de projecteur. Dans les yeux.
Ah, oula. Éric de Saria joue donc une multitude de personnages, hein, le fou, le docteur, le ministre de l'Intérieur, le capitaine ou encore Félix Nial, l'agent de police, une vraie gageure, Maïsa, hein, vu en plus la rapidité avec laquelle les scènes se déroulent.
Eh oui, c'est tout à fait vrai, c'est une interprétation remarquable et j'ai demandé à Éric de Saria quelle a été la difficulté de jouer tous ces rôles.
Déjà, j'avais le modèle de Philippe, puisque Philippe Gentil lui-même avait joué ce spectacle, et il est assez bon pédagogue pour nous transmettre la façon de faire. Et puis, il nous a donné pas mal de documentation. On a regardé les Goons, qui était une émission de la BBC dans les années 50, avec Peter Sellers. Et on a vu cette dextérité vocale qu'ils avaient pour passer d'un personnage à l'autre. Et puis, on a essayé, et puis il a fallu le répéter, et puis c'est comme ça que les choses sont venues.
Excusez-moi, que cherchez-vous ?
Vous ne pas ça, ce n'est pas ça.
Que cherchez-vous ?
Oh ! Ce que je cherche, si je le savais, si je le savais, je ne le chercherais pas. Je cherche, cherche. Attendez, ça me revient, je l'ai au bout des doigts. Je cherche, cherche. Mon identité.
Et en fait, le but du spectacle est de nous faire comprendre la quête de chacun d'entre nous à la découverte de sa vraie personnalité. Et cela à travers l'humour et le burlesque, Éric de Saria, mais on découvre à fur et à mesure que derrière la dérision se cache un propos beaucoup plus sérieux.
En fait, l'histoire est basée sur une histoire vraie, qui est celle de Philippe Gentil. Quand il était enfant, vers 6-7 ans, Philippe s'est accusé, il l'a compris des années plus tard, s'est accusé de la mort de son père, qui est mort accidentellement. Et il s'est accusé de cette mort et donc, psychiquement, il a été obligé de faire des clivages à l'intérieur de lui-même pour tenter de supporter cette culpabilité qu'il avait, probablement pour être seul avec sa mère, d'avoir écarté le père. Et en fait, le spectacle, c'est une histoire de résilience, en quelque sorte. C'est comment un personnage traumatisé arrive à se reconstituer, à se recomposer, à retrouver son unité après avoir franchi plusieurs épreuves.
Marionnettes, jeux de mots, d'ombre et de lumière, situation burlesque et angoissante nous porte tout au long du spectacle dans un rythme effréné, un spectacle qui perdure dans le temps depuis 38 ans et que les enfants adorent.
À découvrir jusqu'au 5 avril donc au Grand Parquet à Paris et ensuite en tournée le 9 avril à Cosne-sur-Loire et le 14 mai à Bruxelles. Ça y est, on y est avec vous Isabelle, une destination mythique du sud de la France que Saint-Tropez, qui rime avec Frime, Star, Luxe. Mais bien avant d'être popularisé par Brigitte Bardot, Saint-Tropez a été, il faut pas l'oublier, un des plus jolis ports de pêche de la côte varoise, abrité dans une baie exceptionnelle qui a inspiré les plus grands peintres de la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est donc ce voyage-là que vous nous proposez à présent Isabelle, à travers la collection d'un musée, le musée de l'Annonciade, musée de Saint-Tropez, qui fête c'est 60 ans.
Imaginez, Jean-François, 5 millions de visiteurs arpentent chaque année le petit port de la côte varoise, s'extasient sur les yachts démesurés, les filles qui bronzent sur leurs pontons tentent d'apercevoir des stars. Vous l'avez dit, la réputation de Saint-Tropez n'est plus à faire. Le village de pêcheurs devenu celui de Brigitte Bardot et celui d'un gendarme joué par Louis de Funès a aussi ses secrets, comme le musée de l'Annonciade logé sur le port dans une ancienne chapelle. Entre un magasin de luxe et un bar à la mode, il faut prendre le temps de pénétrer dans ce havre de fraîcheur et de calme pour découvrir une collection exceptionnelle de peintres de l'avant-garde française, grosso modo de 1890 à 1950.
Une histoire qui commence en 1922 avec le Muséum Tropelen, alors j'ai pas tout à fait l'accent Isabelle, excusez-moi, qui est le fruit d'une donation d'artistes passée par ce village de Saint-Tropez.
Oui, un petit musée un peu endormi qui possédait quelques trésors comme des tableaux de Pierre Bonnard, Charles Camoin, Louis Valta, Henri Manguin et puis surtout Paul Signac. Des artistes qui avaient pour point commun d'avoir peint le port ou le golfe de Saint-Tropez. Claudine Gramont, historienne de l'art.
C'est Paul Signac quand il s'est installé à la fin du 19e siècle dans sa villa La Hune, dans une petite crique très calme, juste après le cimetière de Saint-Tropez. Et c'est lui qui était le chef de file à l'époque des artistes qu'on appelait les néo-impressionnistes et qui a amené, par exemple, pour la première fois, Matisse en 1904 et en 1905, Marquet, Camoin et Manguin. Et puis Camoin et Manguin, par la suite, se sont vraiment même installés. C'est le reflet de Saint-Tropez et de son histoire qui est racontée dans le musée à travers l'œuvre de ces artistes pour lesquels Saint-Tropez, c'était pas simplement une carte postale, c'était leur vie. Il y a vraiment, je crois, une fascination de cette génération d'artistes pour la lumière qui est ici, qui est une lumière très particulière. Je crois qu'ils sont tombés amoureux.
En 1955, le grand-oncle de Claudine que l'on vient d'entendre, le collectionneur et mécène Georges Gramont, fils et petit-fils d'industriels, reprend le musée de Saint-Tropez, sollicite des dépôts de l'État et l'aménage pendant 5 ans pour y déposer sa collection personnelle dont il fera don à l'État à sa mort. Jean-Paul Monnery est le conservateur du musée qui fête cette année ses 60 ans.
Cette lumière tropézienne, finalement, elle se réfléchit sur ces tableaux puisque le choix, on peut dire, de Gramont, ça a été le choix de la couleur. Et donc, à travers sa collection, c'est la couleur qui est présente. Et finalement, c'est aussi, j'ai envie de dire, un nouvel hommage à Saint-Tropez et à sa lumière.
Et pour rendre hommage aux donateurs, car la tradition du musée de Saint-Tropez est faite de dons, Jean-Paul Monnery a réaccroché les œuvres telles que l'avait voulu Georges Gramont. C'est un accrochage de salon, un peu comme chez vous, Jean-François, sans référence aux écoles de peinture, juste pour le plaisir des yeux. C'est le témoignage du goût d'une époque avec la volonté de recréer l'impression très agréable d'être chez soi. Claudine Gramont.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez dans le musée ces fauteuils en cuir, ces grands fauteuils en cuir. Donc, vous pouvez vous asseoir alors, comme si vous êtes avec votre cigare et contempler votre collection. Et ensuite aussi, la manière dont sont présentés les artistes. On voit notamment au premier étage, il y a tout un ensemble de Dunoyer de Seguenza, qui est un artiste dont on parle plus beaucoup, parce qu'il a fait aussi partie dans les années 40, de ces fameux artistes là qui sont partis faire le voyage en Allemagne, Van Dongen, Fries. Ils ont eu après un passage à l'ombre. C'est un accrochage aussi qui raconte peut-être ses amitiés. S'il a fait ses choix, c'est aussi parce qu'il connaissait les artistes eux-mêmes.
Et c'est une collection qui est assez différente de celle que j'ai dans mon propre salon, Isabelle, je ne vous le cache pas, mais qui présente une vision assez complexe des grands mouvements de l'histoire de l'art, comme le nabisme, le pointillisme ou le fauvisme.
En fait, plutôt une vision assez complète de ces mouvements qui ont en commun la couleur. Alors, le mouvement nabis, ça vient du mot hébreu, qui signifie annonciateur. C'était un mouvement qui cherchait des voies nouvelles et spirituelles par la peinture au moyen de grands aplats de couleurs. Peintres nabis et Félix Vallotton, par exemple, ou Pierre Bonnard. Et puis également, le musée de l'Annonciade a le bonheur de posséder un ensemble de chefs-d'œuvre d'artistes fauves, des artistes qui ont voulu aussi réinventer la peinture en s'exprimant par la couleur telle qu'elle sortait du tube. Ils voulaient aller à l'essentiel. C'est une peinture assez crue, puissante, colorée. Un des chefs-d'œuvre du coup en fauve est un tableau d'Henri Matisse, La Gitane, visible à Saint-Tropez, et c'est bien plus qu'un simple nu féminin. Jean-Paul Monnery.
Matisse, il ne peint pas une femme, il fait vraiment de la peinture quand on regarde ce tableau. Et donc, faut pas chercher un visage, faut pas chercher un corps, il faut chercher le rôle de la peinture et l'association des couleurs donc qui l'intègre dans ce tableau. C'est inimaginable même, presque, quand on regarde ce tableau. Il est quand même de 1906 et il est incroyablement novateur, et je pense que jamais Matisse n'aura été aussi loin. Et c'est ce qui fait la force de ce tableau et qui en fait, alors entre guillemets, je dis souvent... c'est notre Joconde.
Ouais, donc la Joconde de Saint-Tropez à découvrir dans cette exposition Hommage aux donateurs qui est ouverte à Saint-Tropez jusqu'au 1er juin. Merci Isabelle, on pourra aussi admirer les trésors de ce musée de l'Annonciade, mais dans un accrochage plus contemporain, un petit peu plus tard. Allez, qui ne connaît pas ce morceau, évidemment, Chan Chan, c'est bien ça, tiré de l'album Buena Vista Social Club, enregistré en 96 à La Havane, Sarah, et c'est le début d'une incroyable épopée musicale qui va se terminer avec une tournée d'adieu qui est en cours et la sortie d'un album d'enregistrements inédits.
Oui, Buena Vista Social Club était hier soir sur scène à l'Olympia à Paris, et d'autres concerts d'adieu sont prévus d'ici la fin de l'année, quasiment 20 ans après la sortie de l'album originel du groupe. Un album devenu le plus célèbre de l'histoire de la musique cubaine, avec plus de 9 millions d'exemplaires vendus dans le monde et un Grammy Award aussi. Mais voilà, en 20 ans, plusieurs des piliers de ce groupe ont disparu. Ne reste que quelques survivants, notamment Omar Aportuondo et Eliades Ochoa, 68 ans, un Stetson toujours vissé sur la tête.
Quand on annonce Buena Vista Social Club aujourd'hui devant l'orchestre, il n'y a plus que nous deux. Et je dis toujours qu'une retraite à temps vaut une victoire.
C'est très émouvant, cette tournée. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Mais c'est prodigieux ce qui nous est arrivé. Et tout ça restera marqué dans nos vies et dans l'histoire de la musique.
Voici un autre morceau qui pourrait figurer sur ce mythique album, enregistré d'ailleurs en une semaine, ça, donc en 1996, on le disait.
Oui, ce morceau-là n'avait pas été retenu, mais il se retrouve du coup sur l'album d'enregistrement inédit sorti la semaine dernière, Lost and Found. Et vous aurez reconnu en tout cas le même duo, Eliades Ochoa, avec le guitariste et chanteur Compay Segundo.
Oui, à l'époque, c'était le doyen du groupe.
Oui, puisqu'il allait sur ses 90 ans tout de même, suivi de près d'ailleurs par le pianiste Ruben Gonzalez, que voici lui au Queen Elizabeth Hall de Londres en 98. Elle l'origine de cette aventure musicale, le compositeur et guitariste américain Ray Cooder. Enfin, au départ, lui voulait enregistrer à La Havane avec des musiciens cubains et africains. Mais pour la petite histoire, les Africains sont restés bloqués à l'aéroport à Paris. Buena Vista Social Club se fait donc en 96 uniquement avec des vétérans de la musique cubaine pour en faire en quelque sorte revivre l'âge d'or, les années 30 à 50. Eliades Ochoa.
Les années 30 avaient marqué le début d'un âge d'or pour la musique cubaine. Elles avaient vu éclore plein de groupes très importants à Cuba. Il y a eu beaucoup de créations, une musique qui avait une saveur particulière, des chansons intemporelles. Quand nous avons enregistré en 96, nous avons réutilisé le répertoire de cette période-là. Et notre album nous a permis de le faire connaître à travers le monde, d'être à tout jamais les ambassadeurs de la musique cubaine.
Encontré una carta que en tiempo pasado me hizo muy feliz.
Eliades Ochoa, toujours le dernier à quitter le studio d'enregistrement en 96 à La Havane. Il jouait donc tout seul le soir, c'est cela qu'on entend. Il est d'ailleurs tout étonné que ce titre ait à l'époque été enregistré et qu'il se retrouve sur cet album d'enregistrement inédit. C'est un disque plein de surprises, nous confiait-il tout ému quand il est passé la semaine dernière à RFI.
Un disque qui fait revivre les disparus.
Écoutez, oui, par exemple, cette voix. Ça c'est Ruben González, le pianiste, hein, pianiste essentiellement, mais qui chante, là, qui chantonne en tout cas son solo de piano.
Alors il y a eu le disque Buena Vista Social Club, puis un documentaire de Wim Wenders, et pour tous, un succès absolument phénoménal.
Oui, puisque chacun ensuite a enregistré des albums solo, ils ont fait ensemble plus de 1000 concerts dans les plus grandes salles du monde. Écoutez ceci par exemple. Ça, c'est le Zénith de Paris, en l'an 2000, debout quand le chanteur Ibrahim Ferrer entre sur scène. Omara Portuondo, la seule femme du groupe, 84 ans aujourd'hui, se souvient.
Il était très élégant, Ibrahim, et il avait une voix tellement belle. Alors, quand il se mettait en plus à danser, ça provoquait une réaction du public.
Qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'être la seule femme dans ce groupe?
Tu t'imagines, tant d'hommes pour moi. J'ai été comme une enfant gâtée.
Omara Portuondo, avec son beau visage que les années ont épargné. Et même si elle a du mal à marcher aujourd'hui, eh bien elle promet de continuer à chanter de son côté. Et Eliades Ochoa aussi d'ailleurs.
Si j'arrête de chanter, de jouer de la guitare, ce que j'ai toujours fait, pour moi la vie se termine. Or j'ai toujours envie de continuer à vivre.
Yo quiero seguir viviendo.
Y hay una cosa que dice, joven ha de ser, quien lo quiera hacer.
Et Omara Portuondo qui ajoute donc, il y a une chanson qui dit « Rester jeune est une question de volonté » et nous, nous gardons cette volonté.
Lost and Found, l'album dans les bacs depuis une semaine maintenant, et la tournée d'adieu de Buena Vista Social Club jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup Sarah, Maïsa, Isabelle et Sébastien. Dans un instant sur RFI, le journal, on se retrouve quant à nous lundi avec Tania de Montaigne pour un livre intitulé Noir autour de Colette Colvin, un personnage peut-être pas assez connu de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, une sorte de Rosa Parks avant la lettre, un livre publié chez Grasset, et vous m'en direz des nouvelles. Yo no quiero ser